passe si finalement les choses ne fonctionnent pas. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en situation où on achète quelque chose qui a une valeur connue et qui est pérenne dans le temps, on achète du risque. Et donc on est amené à forcément à se positionner dans un monde où on a les deux possibilités. Alors quand on regarde un petit peu le graphe qui est en haut à gauche, on a la possibilité sur tout type d'intervention de faire à la fois des pertes ou des profits, et puis il y a des choses qui sont incertaines et des choses qui sont, ça devrait être à droite, qui sont certaines. Alors comme on dit en anglais, il n'y a pas de repas gratuit, donc l'assurance de faire du profit, ça n'existe pas. Ou alors c'est que le marché n'est pas parfait, et que, parce que quelqu'un devrait pouvoir le faire ça à votre place, donc les prix devraient monter, et donc vous ne devriez pas avoir l'assurance de faire un profit. Alors vous pouvez le faire si vous êtes déjà dépositaire, je sais pas, d'un foncier, que vous n'avez pas payé comme les cas de ce matin, et que miraculeusement ça devient constructif, là vous faites un profit. Mais lorsqu'il s'agit de financer un projet en amont, on n'a jamais l'assurance et la certitude de faire un profit. On n'a jamais non plus la certitude de faire une paume, parce que sinon ça ne sert à rien de faire le projet, ou alors il vaut mieux éviter. Donc on se situe forcément dans un schéma où on a à juger le risque qui va être le nôtre de faire soit un profit, soit une perte. La meilleure façon de symboliser ça, attachez-vous juste au graphe, hein, vous embêtez pas à lire tout. La meilleure façon de visualiser tout ça, c'est de prendre un exemple très simple d'un actif de rapport. Donc un actif dont la valeur dépend du revenu qu'il est capable de générer dans le temps. Donc là, vous avez un exemple assez simple, hein, quelque chose qui rapporte 6 par an et qui est vendu 16,7 fois la valeur. Ou on verra plus tard sur la base d'un taux de capitalisation de 6%. Donc ce truc-là vaut 100. Supposez que vous l'achetez avec 20% de fonds propres et 80% de dette. Donc vous avez la situation où vous voyez dans le graphe. Donc vous êtes propriétaire d'un truc qui vaut 100. Vous avez emprunté 80 pour l'acheter et vous avez mis simplement 20 de votre argent pour le faire. Si vous payez 5% d'intérêt sur les 80, alors si vous payez, j'aurais dû mettre 2i parce qu'en ce moment, on ne paye plus 5% d'intérêt sur les 80. C'est beaucoup, beaucoup plus cher si on arrive à avoir de la dette. Mais si vous payez 5% sur les 80, au lieu d'avoir les 6 de revenus, vous avez 6 moins 4, donc 2. Et donc par rapport aux 20 que vous avez investi, vous avez un rendement de 2 par rapport aux 20 qui est quand même assez acceptable chaque année. Par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, si malheureusement vous vous êtes gouré et qu'au lieu de rapporter 6, ça rapporte que 5,5 et au lieu de valoir 16 fois le loyer que rapporté, ça vaut que 15 fois le loyer, vous voyez que la première partie à souffrir, ce sont vos fonds propres. Donc qu'est-ce qui se passe? Le banquier est toujours protégé. Il a un petit coussin, puisqu'il avait tout ce qu'il y avait dans le graphe d'avant de rouge comme coussin de protection, c'est une espèce d'airbag pour lui. Mais si la valeur descend à 82, il est toujours protégé. Mais vous avez déjà perdu 17,5. Bien évidemment, j'ai été modéré dans le crash test. Aujourd'hui, on vit des situations où la perte est beaucoup plus importante. L'ensemble des fonds propres ont disparu et même la dette est altérée. Ça marche dans les deux sens. Donc là, on voit en gros l'équivalent de la perte. Et au passage, un élément important qu'on voit ici, dans le premier cas de figure, le banquier était protégé puisque sa dette représentait 80% de la valeur de l'actif. Là, la valeur de l'actif baisse, la dette reste la même, donc la dette représente 97% de la valeur de l'actif. C'est-à-dire que l'airbag a fonctionné, il n'a pas souffert, mais il n'a plus l'airbag là. Donc ça fonctionne qu'une fois les airbags. Donc s'il va pas au garage pour changer l'airbag, ça ne fonctionne pas. Donc là, en espèce, s'il veut maintenir sa protection, il faut qu'il redemande au prêteur de remettre de l'argent. Et souvent dans les contrats bancaires, vous avez une contrainte, une espèce de test de LTV. LTV, ça veut dire loan to value, c'est le rapport entre la dette et la valeur de l'actif. Donc des contraintes qui font que si, au lieu d'être à 80, vous descendez à 80, vous montez à 97, vous êtes obligé de remettre des fonds propres, sinon vous êtes obligé de rembourser le prêt. Alors bien évidemment, ça marche dans l'autre sens, parce que si au lieu, j'ai été très très conservateur et je m'aperçois que j'arrive à louer à 6,5 millions par an et que ça vaut beaucoup plus cher parce que je le vends 18 fois le loyer, donc là j'ai une valeur qui est de l'ordre, je la vois pas, mais 117, donc là j'ai un profit. Ce profit va pas du tout dans la poche du banquier, il va dans ma poche à moi. C'est-à-dire qu'en gros, mes fonds propres, qui valaient 20, maintenant valent 37. Donc je me suis enrichi, et ça ne change rien au banquier, il continue d'avoir toujours ses 4 millions d'intérêts par an. La seule chose que ça change pour lui, c'est que si cette valeur est réelle, il a amélioré sa situation, puisque l'airbag a grossi. On pourrait s'arrêter là, Mais en fait, ce qui se passe quand on arrive à cette situation-là, c'est que je suis content d'avoir investi 20, je suis content d'avoir réalisé 37 de profit, mais j'aimerais bien récupérer les 20 que j'ai investis. Et si je pouvais même aller à l'extrême, qui n'est pas celle de ce graphe-là, où j'ai plus du tout de fonds propres investis, j'ai juste un profit potentiel, le seul à porter le risque, c'est le banquier. Là, en l'espèce, qu'est-ce qui se passe? J'avais réussi à avoir 80 parce que la valeur était 20, maintenant la valeur est 117. Si je veux rester à 80% de dette, je peux réinjecter de la dette, donc demander 13,6 de dette en plus, parce que 93,6 c'est toujours 80% de 117, et donc je peux me distribuer. C'est un peu compliqué comptablement parce que là, je n'ai pas vraiment réalisé de profit, donc il y a plusieurs moyens de le faire, mais je vous rassure, c'est possible. Donc, je peux me distribuer de l'argent. Ce mécanisme-là de réinjection de dette sur la valeur croissance, supposée croissante d'un actif, c'est en gros ce qui est à l'origine des prêts des subprimes sur les maisons aux États-Unis. En gros, les gens réinjectaient de la dette, et principalement pour consommer, en fait. Et le problème fondamental, c'est que dans ce cas-là, les valeurs d'actifs étaient complètement impactés par le comportement des prêteurs. Plus les gens prêtent, plus il y a de la dette disponible, plus les prix montent, puisque plus il y a de gens qui veulent acheter. Et donc, dans une situation de départ où vous prêtez 80 pour que quelqu'un achète 20, si massivement ça intervient, beaucoup de gens veulent acheter, il n'y a pas forcément la production sur place, donc les prix montent, les prix des maisons montent, et le type qui avait acheté à 100, sa maison monte, et donc il peut retirer du crédit. Et à un moment donné, vous avez une inférence, et ce sont les prêteurs eux-mêmes qui génère la survaleur et qui génère en gros ce qui va les mener à la perte demain. Alors, si on parle un petit peu de cycle, donc vous avez en graphe depuis 1902 l'évolution de la bourse américaine Dow Jones. Donc, on voit que c'est une évolution qui globalement est croissante tout le temps. Donc là, vous avez la crise de 29, boum. Là, vous avez la guerre et là, ça monte, ça monte, ça monte tout le temps. On a moins d'éléments en France, mais aux États-Unis, on a pas mal d'éléments d'appréciation sur la cyclicité ou l'évolution dans le temps des valeurs immobilières. Le graphe que vous voyez, qui n'est pas d'une grande qualité, en dessous, ça représente le prix des terrains à Chicago entre 1830 et 1956. Et l'analyste qui a étudié ce graphe-là a identifié ce qu'on voit en bleu des cycles d'à peu près 18 ans. Donc on a une espèce de cyclicité à la fois dans les valeurs immobilières et dans les valeurs foncières. Le bouquin d'Aveline, pardon, dont a parlé Caroline ce matin est assez intéressant parce qu'il fait référence notamment au marché japonais où jusqu'aux années 90, on parlait encore de prix de terrain au mètre carré et pas au mètre carré de droit à construire constructible. Je sais qu'il y a un Marocain dans la salle, lorsque vous êtes au Maroc à Casablanca, les gens parlent de prix au terrain au mètre carré. Ils ne parlent pas de prix ramené à de la chaîne. Donc on a une espèce d'évolution où à un moment donné, il y a une vraie perception de la valeur foncière et les gens expriment indépendamment de la constructibilité la valeur d'un terrain au prix au mètre carré. Et c'était encore le cas au Japon il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était vraisemblablement le cas à Chicago. C'est pour ça qu'on a des éléments d'appréciation. Maintenant, dire ça, il faudrait le corréler à l'évolution de la densité et de la constructibilité qui aussi impacte bien évidemment le prix des terrains. Si on ramène ça à des choses assez simples comme l'évolution dans le temps des loyers de bureaux ou des marchés de bureaux, John Slang, LaSalle, qui est un broker, donc un commercialisateur de bureaux, a inventé cette espèce de concept d'horloge. Un cycle, c'est jamais qu'une sinusoïde. Donc si au lieu de l'avoir de façon sinusoïdale, vous bouclez la boucle, vous avez une horloge et on revient au graphe précédent. Et donc, selon John Slang, différentes villes se baladent sur cette horloge et donc passent de moments qui sont des hauts de cycle, comme dans le Grand 8. À un moment donné, ça se casse la figure. Donc on descend, on descend, on descend. Après, on arrive en bas et avec un petit peu d'espoir, on a de l'élan et on remonte et ça remonte, etc. Malheureusement, l'arithmétique est un peu brutale. C'est ce qu'on voit à droite. C'est-à-dire que quand vous êtes à 600, qui en gros 600 euros, c'est le top du marché locatif à la Défense pour des bureaux, et que vous descendez à 400 euros, vous avez une baisse de 33%. Arithmétiquement, pour remonter, il faut 50% d'augmentation. Et ça, c'est aussi valable pour les valeurs boursières, notamment les sociétés foncières, qui, contrairement à leur nom, ne détiennent pas des terrains, mais des immeubles. Lorsque les cours baissent de 30%, ou 33% en l'espèce là, pour revenir au point de départ, il faut que ça monte beaucoup, beaucoup plus. Ces chiffres-là paraissent excessifs. 600, en gros 500 plus ou moins 100 euros, c'est exactement la description assez simpliste mais réelle du marché de bureaux à la Défense. Donc ces amplitudes de cycles sont énormes. Et comme vous pouvez l'imaginer, si au loyer vous rajoutez ce qu'on verra plus tard, l'évolution du multiple ou des taux de capitalisation, vous avez un impact sur les variations de prix qui est très 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 important. J'imagine, puisque c'est un peu un dada de la dev que Caroline vous a déjà parlé de la courbe. Alors elle, t'appelles ça comment, toi, le serpent? L'escargot.
Une tête de boa, mais qui ressemble à un escargot.
Et donc peut-être t'as expliqué ça longuement ce matin déjà. Voilà. Donc c'est moi j'appelle ça la courbe du cochon pour deux raisons. Un, parce qu'historiquement elle a une forme de queue de cochon. Et deux aussi parce qu'elle est elle est une origine assez ancienne, parce qu'il y a pas mal de marchés comme ça qui fonctionnent comme ça. Et elle est une origine assez ancienne sur la viande de porc en fait. Et le concept est assez simple. On a vu la production de foncier ou d'immeubles immobiliers, c'est une activité qui prend du temps. Élever un porc, ça prend du temps aussi. Donc vous amenez, vous imaginez un village, puisqu'on a parlé de périurbain ce matin, où quelqu'un amène des porcs au marché pour les vendre. Donc il a un nombre limité de porcs, et en fonction du nombre qu'il a, il ne peut pas en amener plus, ça prend du temps à les élever. Imaginez qu'il y a une très forte demande, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? Les volumes ne peuvent pas augmenter. Parce qu'il peut pas inventer des porcs, il faut qu'il attende que les porcs se reproduisent. Donc c'est uniquement les prix qui montent au départ. Et au bout d'un moment, comme les prix montent, ça devient intéressant d'élever des porcs. Donc il y a plein de gens qui commencent à élever des porcs. Donc on vit une phase où à la fois les prix montent et les volumes augmentent. Et au bout d'un moment, il y a tellement de mecs qui élèvent des porcs que ben, il y a plus d'offres que de demandes, donc les prix commencent à baisser. Et à un moment donné, les prix baissent tellement que les gens arrêtent d'élever des porcs et donc les volumes baissent. Et on revient au cycle de départ. Donc on a un peu ça. C'est pas si simple dans la réalité. La courbe j'ai vu dans tes graphes, la tienne, toi tu la continues, elle monte tout droit en fait. On a vécu un autre phénomène qui est que, en fait, c'est sur Paris. Hein. En gros, à Paris, on vend bon an, mal an 35 000 appartements anciens, et donc on se balade plus ou moins à 35 000, et là le prix moyen c'est 2 500 euros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est vraisemblable que pour tout un tas de phénomènes, peut-être l'anticipation du besoin d'épargne pour la retraite, etc., les gens se sont mis massivement à investir. Dans l'habitation à Paris, et quels que soient les volumes. Et donc là, on est une situation où les volumes varient très très peu, mais en revanche, les prix ont vraiment explosé. Ça, vous avez une courbe sur l'évolution du marché de bureau. Vous avez là encore pour montrer la cyclicité sur à peu près une vingtaine d'années, si on prend en compte 2010 qui n'existe pas vraiment encore. Vous avez en jaune le stock immédiat. Donc vous voyez qu'immédiatement après la crise du début des années 90, on avait pratiquement 5 millions de mètres carrés de vide. On les a très très vite résorbés. Pourquoi? Parce que la demande qui est en vert a énormément monté. En 2000, on avait 2 500 000 mètres carrés de loués à Paris, enfin dans la région parisienne. Donc le stock est descendu en dessous de 2 millions de mètres carrés. En revanche, les nouvelles constructions sont restées relativement élevées au départ et après ont complètement infléchi. Et la bonne nouvelle de la sortie de cycle et des dernières années qu'on vient de vivre, c'est que les prêteurs ont vraiment joué un rôle de conseil, contrairement dans le cycle précédent, et ont fermé le robinet de crédit quand en 2001, l'activité locative était moins bonne, et donc on n'a pas eu une surproduction. Et donc là, on arrive à des courbes qui sont assez raisonnables. Et aujourd'hui, où on est vraiment en situation de crise, on a beaucoup moins de mètres carrés disponibles que ça n'était le cas il y a quelques années. Et en plus, il y a quelques années, le parc parisien représentait à peu près 45 millions de mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, c'est plus de 50 millions. Donc le pourcentage de ce qui est vacant est bien moindre qu'à l'époque. Donc ça, c'est à peu près la même chose. Donc ça vous dit la même chose sur les délais de construction, vous connaissez ça par cœur. Donc maintenant, si on regarde un peu ce que ça donne en matière d'opération de développement, en faisant un truc très très simpliste, mais c'est bien de revenir à des choses simplistes. On a vécu une époque ces 15 dernières années où on a un peu jeté à la poubelle des bilans de promoteurs très très simples, en gros, qui relevaient d'une simple addition, on a dit, ou soustraction, on soustrayait des dépenses à des recettes. Et on intégrait là-dedans comme dépenses des frais financiers à des choses plus compliquées avec des cash flows, etc. Mais c'est bien de revenir à des choses fondamentales comme ça, qu'en général on appelle, ça s'appelle le compte à rebours, je sais pas quoi, la façon en gros, de voir comment on peut déterminer la valeur résiduelle d'un terrain. Donc là, on a une valeur qui est de l'ordre de 162 qu'on voit en haut. Donc pourquoi? Parce qu'on a un loyer de 9 millions et un immeuble qui vaut 18 fois le loyer, ordre de grandeur complètement arbitraire. On a des coûts de production d'à peu près 45 qu'on voit en gris au milieu. On a la nécessité, pour simplifier les choses, de faire 40 de profit, de poids de rémunération, en gros à la fois des fonds propres et de la dette. Donc en gros tout ce qui est profit, paiement des fonds financiers, pour simplifier c'est ça. Donc il nous reste 76 de disponibles, si je compte bien, pour le terrain. Donc si le marché est parfait. Le propriétaire du terrain le sait et donc il va vous demander de payer son sel. Et si vous ne le faites pas, ben vous n'aurez pas le terrain parce que quelqu'un va le payer à votre place. Bien évidemment, si on s'est gouré dans le bon sens et que l'immeuble rapporte beaucoup plus qu'il a une valeur totale je sais même plus où elle, 247 millions, en gros c'est non pas 9 millions de loyers mais 11, non pas 18 fois mais 22 fois. L'écart peut vous paraître extrême, mais on va le voir sur la planche suivante. La réalité du marché nous a amené de tels écarts. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut supposer, pour être un peu décent et réaliste, qu'il y a un impact sur les coûts de construction. Donc, vous voyez qu'on n'a pas 45, on a un petit peu plus cher, parce qu'on dit qu'il y a, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une euphorie, l'activité est très forte, donc peut-être qu'il y a tellement de choses à construire, il y a un nombre limité de constructeurs, donc les coûts de construction vont augmenter un petit peu. Donc, au lieu d'être à 45, on est à 54. Toute la partie bleue qui est ma marge nécessaire, ma rémunération des frais financiers, etc., est un petit peu sous une forme de proportionnalité, donc elle a augmenté aussi. Mais vous voyez que la variable d'ajustement, c'est vraiment le foncier. Et donc là, on a un impact sur le foncier qui est énorme. Et si on compare par rapport à la situation précédente, qu'est-ce qui se passe? L'espèce de survaleur qui est liée à cette évolution phénoménale du marché a profité un petit peu à la rémunération des fonds propres. Vous voyez à droite, donc c'est plus 21, mais principalement aux détenteurs du foncier. Alors, vous pouvez aller à l'extrême, qu'on a vu ce matin, ou passer d'un terrain qui n'est pas constructible à un terrain qui est énormément constructible. La variable d'ajustement, c'est le foncier, et s'il se débrouille bien, c'est le propriétaire foncier qui va en bénéficier. Bien évidemment, si je me suis gouré, c'est-à-dire que si, au lieu de raisonner sur cette base-là, j'ai raisonné sur cette base-là, celle qui est en haut, là, et que malheureusement, je suis face à une récession parce que j'ai pas eu le temps de construire, parce que j'ai mis du temps à avoir mon permis, parce que tout un tas de choses, et qu'entre-temps le marché s'est retourné, la paume, elle n'est pas pour le propriétaire du foncier, elle est pour moi. Donc en général, ce qu'on essaie de faire pour mitiger ça, c'est que les 64 là, on les donne pas complètement. On les donne de façon conditionnée au succès de l'opération. Et donc ça induit une notion qu'on verra demain sur le partage du risque et quelque part du profit entre l'aménageur et le promoteur immobilier, entre la puissance publique qui génère des droits à construire et l'acteur public, semi-public ou privé, qui, lui, prend le risque de les acheter. Là, vous avez un graphe qui vous donne l'évolution. Vous avez ici, en gros, l'indice du coût de la construction, donc 133% depuis 1996, qui permet en gros de calculer l'évolution d'indexer les loyers. Après, vous avez en rouge, si on avait 2,25% de croissance constante, vous seriez sur la courbe rouge. Vous avez en bas 115%, c'est l'indice du coût à la consommation tel qu'on le lit, en gros, c'est jamais plus que 2% par an. Et après, vous avez en noir l'évolution réelle des loyers de bureau dans la période. Vous voyez que par rapport, si vous supposez que quelqu'un avait signé un bail là et qu'il n'était jamais sorti du bail, il serait en gros ici. En revanche, si vous aviez suivi le marché, vous seriez bien au-dessus. Vous avez à droite l'évolution dans le temps des multiples pour les immeubles de meilleure qualité de bureaux à Paris. En gros, on est passé de 12 fois le loyer à pratiquement 24 fois le loyer. Donc en gros, on est sur des taux de cap qui sont en dessous de 4%. Et là, on était pratiquement au-dessus de 8%. Et au niveau des loyers, on est passé de à peu près 540 à 840, ou plutôt de 840 à 640, on est remonté. Donc cette volatilité est énorme. Et comme on l'a vu, ça a un impact très très important sur la perception que les gens peuvent avoir des prix fonciers. Et quand je dis les gens, c'est le propriétaire ou l'acheteur. Et bien évidemment, ça a un impact très très important sur la prise de risque et sur les problématiques de financement. Alors, tout ça, cette notion de risque, elle est. On a parlé tout à l'heure, ce matin, de périurbain et donc de périphérie. Les prix immobiliers et fonciers, comme vous le savez, sont centralisés. Il y a un économiste, je crois qu'il est allemand ou autrichien, Thunen, qui a fait une grande théorie sur ce sujet-là, sur les prix agricoles. Et en gros, il expliquait que le temps de transport nécessaire à amener les produits agricoles au centre de ville. Enfin, le coût de transport impacte sur la valeur des terrains. Si vous avez un terrain agricole qui est proche de la ville, il va valoir plus cher que celui qui est loin de la ville parce que ça va coûter moins cher de produire et d'amener les fruits ou les légumes, ce que vous voulez, au bord de la ville. C'est un petit peu la même chose sur les pratiques de coût de transport et sur les localisations de la ville. Vous avez à droite Une carte que vous connaissez peut-être, qui est la carte MOS, donc de mode d'occupation du sol, qui est faite par l'IORIF. Donc c'est une carte où chaque parcelle, vous avez toute l'île de France, donc là j'ai zoomé un peu, chaque parcelle est identifiée, et pour chaque parcelle, on détermine l'usage moyen ou majeur de cette parcelle-là. Donc vous avez en rouge l'habitat collectif, en jaune l'habitat individuel, en violet c'est tout ce qui est industriel, et on ne voit pas bien, parce que c'est concentré vertical, en bleu bleu ciel, comme ça. Ici, vous avez le bureau. Donc il y en a ici un peu dans le quartier d'affaires, et il y en a, si on poursuit l'axe, à la Défense, là. Mais vous voyez que majoritairement, on est sur un usage qui est plutôt prédominant d'habitat collectif dans Paris. On voit aussi l'autre impact de la pratique de la périphérie, où les murs d'enceinte puits de périphérique ont vraiment contenu de Paris et contenu l'extension, et on a encore majoritairement de l'habitat individuel à l'extérieur. Et vous avez en haut ce que les gens appelaient le triangle d'or. Donc c'était historiquement, ce n'est plus le cas, l'endroit le plus cher foncier à Paris. Pourquoi ? Parce que tout le monde voulait être là et que la densité était contrainte puisqu'on avait un vélum, une hauteur de construction, et on avait en gros des immeubles haussmanniens qui correspondaient à des R+6. Vous avez en haut, à gauche, une espèce de vision scientifique de la densité à Moscou. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose si on fait un parallèle entre le rouge et haut puisqu'il est collectif et le jaune et bas puisqu'il est individuel. Donc on a encore cette espèce de densité au centre et plus on va vers la périphérie, moins on est bas. En bas, vous avez une espèce de mamelon, on va dire. C'est la représentation mathématique de la ville la plus efficace. Vous prenez un damier et chaque carré, en gros, est un immeuble. Donc vous pouvez définir comme vous voulez la hauteur de l'immeuble et vous avez un nombre de surfaces à construire qui est déterminé et vous paramétrez votre construction de façon à limiter les temps de communication de tous les endroits en même temps. Et vous arrivez à cette forme-là qui correspond, avec des problèmes de faire ça pour le comprendre, mais en gros à une ville où tout le monde veut plus ou moins être au centre et plus vous éloignez de la périphérie, plus ça part. Pourquoi ça a un impact sur nos histoires financières, cette histoire-là ? Parce que très simplement, la capacité de multiplier le sol au centre est énormément créateur de valeur. Et donc c'est un enjeu formidable pour les gens qui veulent prendre des risques immobiliers, créer de la valeur immobilière, spéculer dans l'immobilier, ou même qui sont amenés à financer l'immobilier. Et ce qui est rappelé dans l'image centrale, c'est que la limite naturelle de la multiplication du sol était pas simplement liée à des aspects esthétiques, comme on l'a vu ce matin, mais à des aspects assez pratiques. Avant l'invention des systèmes de sécurité sur les ascenseurs en 1851 par Otis, on n'avait pas la possibilité de faire des étages très très élevés, et c'est uniquement où on a eu l'ascenseur qu'on a pu, comme on le verra sur des images plus loin, vraiment démultiplier le sol. Et donc cette notion de densité est un élément très important. Bien évidemment, elle a un impact sur les prix, ce besoin de centralité. Vous avez en haut, on ne voit pas bien, mais en gros, ça, c'est les Champs-Élysées. Alors, les Champs-Élysées ont une particularité, c'est qu'il y a un côté qui est à l'ombre et l'autre qui est au soleil. Et un marché aussi précis et spécifique que les Champs-Élysées, c'est un marché qu'il est difficile de connaître si on n'est vraiment pas expert, on ne veut pas de transaction, parce qu'en gros, les commerces au soleil se louent beaucoup, beaucoup plus cher que les commerces à l'ombre. Et donc, il y a non seulement une notion de centralité, mais une notion un peu hédonique de positionnement d'un lieu là, en l'espèce, dans son orientation. Vous avez la carte de Paris avec une carte dite isoprix. En rouge, vous avez les prix de bureaux les plus chers et en violet, les moins chers. Donc là, vous voyez très très bien. La zone rouge, c'est ce qu'on appelle le Paris un peu cristallisé, le Paris historique et immuable qui ne change jamais. Toutes les grosses opérations, comme on le verra dans une planche plus loin, toutes les grosses opérations de promotion de bureaux qui se font en cause de droit et non pas en cause de fait, se font à l'extérieur de cette zone-là. À l'intérieur de cette zone-là, on ne fait pas grand-chose, on arrive à refaire la densité parce qu'on pète un immeuble, on le refait tel qu'il est, mais on peut guère faire d'autres choses que ça. L'image de droite, c'est une représentation sous forme d'histogramme du prix du mètre linéaire de boutique à Chicago dans les années 30. Sur un quadrilatère de X blocs de rue de Chicago. Et donc vous voyez, là encore, toutes les boutiques n'avaient pas la même valeur, il y avait un endroit très particulier où les gens voulaient être, et en fonction de la distance par rapport à cet endroit, vous aviez un éloignement. Alors, tout ça est une constante, mais lorsque vous êtes sur des villes, là, vous avez deux exemples de Paris et de Londres, où la densité existe déjà, où le foncier est déjà exploité, la seule possibilité de pouvoir poursuivre l'expansion et d'essayer d'inventer du foncier pertinent et d'essayer de l'inventer à la périphérie. Ce matin, on a vu que l'expansion périphérique ou périurbaine se fait plutôt par du non-dense. Donc là, c'est une espèce de volonté d'essayer de faire du dense à la périphérie. Donc vous avez deux exemples que vous connaissez bien. Vous avez la Défense qui est à plus de 5 km du centre de Paris, qui est là à Notre-Dame. Et vous avez les Docklands, qui est bien plus loin que Charing Cross, qui est aussi. C'est difficile de savoir quel est le centre de Londres. Moi, j'ai tendance à penser que c'est Charing Cross, mais bon. Mais c'est pas le Londres historique qui a eu des murs et qui les a perdus très vite. C'est la petite partie en rouge que vous voyez là. Donc, il y a eu cette volonté d'expansion et qui, si on se remet quelques années en arrière, consistait vraiment à prendre des terrains qui étaient au milieu de nulle part. Il y a un projet à Casa, près du parc d'attractions de Sindibad, où il y a des bidonvilles, à la Déf et donc il y a tout un sujet de réflexion sur ce projet-là, à la Défense, à Nanterre, et pas mal de films des années 70 le montrent, il y avait des bidonvilles. Donc l'idée a été de trouver un terrain pertinent, parce que dans le Paris historique à gauche, on ne pouvait rien faire, pour pouvoir y faire une espèce de Manhattan, tel qu'on voit un petit peu le profil du skyline de la Défense à droite. C'était un petit peu la même chose à Londres, avec les Docklands. Bien que Londres n'avait pas hésité, notamment avec l'opération de Barbicane, à complètement péter le centre qui avait été bombardé, Paris était protégé parce que Von Schultz a refusé de bombarder Paris, mais Londres, ayant été bombardé, on a déjà de la densité et de la hauteur à Londres, mais ça n'a pas empêché d'avoir des besoins autres et donc d'amener à créer de la densité à la périphérie.